Bonjour, eh bien nous voici sur l'émission Témoin avec Étienne Perceroux qui va nous parler de son parcours. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être à Radio Grand Ciel. Et tout de suite, je vais demander, mais être aumônier de l'hôpital. Un hôpital, c'est déjà en soi la plus grosse concentration humaine de dreux.
Oui, tout à fait.
Et puis, on est pour les malades, pour des gens très fragiles. On est pour les soignants, pour une administration, pour des médecins. C'est-à-dire, on touche le vivant. Comment vous en êtes venu là et comment vous ressentez tout ça? Vous étiez chrétien de naissance ou il y a eu une rencontre, évidemment, avec Jésus-Christ à un moment donné? Alors, parlez-nous de tout ça.
Je suis chrétien de naissance. Je suis né dans une famille chrétienne où beaucoup de prêtres sont passés. Au départ, j'ai suivi la filière de l'imprimerie. Et puis, fin 2012, après un licenciement collectif dans l'entreprise où je travaillais depuis 32 ans, des membres de la paroisse drouaise m'ont proposé le poste d'aumônier de l'hôpital. Paul Chêne partant en retraite, donc c'était l'aumônier qui m'a précédé. Donc, après réflexion en famille, court stage avec Paul Chêne qui m'a un peu...
Initié,
oui, tout à fait. Le diocèse a accepté ma candidature aussi parce que le diocèse a bien voulu de moi. Et ils m'ont embauché. Et puis ma mission a débuté le 29 avril 2013. Et puis les deux années qui ont précédé mon licenciement ont développé mes convictions du respect de l'être humain, quelle que soit sa situation. Outre mon éducation religieuse et puis l'envie de transmettre le reçu et le vécu, j'en avais parlé à un prêtre quand j'ai fait de l'aumônerie. Je lui avais toujours dit « j'ai tellement reçu avec toi que j'ai besoin de donner ». Et puis aussi, il me semblait important de découvrir le monde de la santé et puis la vie d'un hôpital. Parce qu'un hôpital, c'est la ville dans la ville.
Ce sont aussi des gens fragiles, alors que dans l'entreprise, ce sont des gens bien portants. Un monde où aussi on échange, l'argent compte, la technique compte aussi. Et puis là, vous vous retrouvez avec les gens qui sont les plus fragiles. Alors soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont accidentés. Enfin bref, on ne sait pas leur histoire, mais il y a quelque chose qui les rend infiniment fragile. Et puis autour d'eux, il y a des soignants, chrétiens ou pas, certains qui font ça par humanisme, par conviction, qui font advenir le royaume, même s'ils ne sont pas chrétiens. Et puis d'autres qui font ça parce qu'ils gagnent leur vie comme ça, ils font de l'argent. Être médecin, ça rapporte aussi. Peut-être pas à l'hôpital d'ailleurs. Et parmi les malades, vous accueillez ceux qui sont croyants, mais beaucoup d'autres. Alors comment ça se passe ?
Alors comment ça se place? Chacun a sa place, c'est-à-dire que bon, on ne fait pas de prosélytisme à l'hôpital, c'est un lieu public. Et il y a une équipe de bénévoles qui passe dans les étages, et après on parle avec ces bénévoles, et bien sûr, en priorité on va vers le chrétien, mais dans les chambres à deux, des fois il y a une autre personne à côté, qui en entendant parler de la religion, du chrétien, de ce qu'on fait, eh ben, s'interroge.
Et ça, c'est intéressant.
Oui,
ça,
j'ai eu le cas d'une personne comme ça qui m'a appelé, qui a demandé à l'infirmière, parce que tout le personnel soignant, c'est vraiment le privilégié, c'est lui qui est près du malade.
L'interface.
Et donc, je me suis déplacé et ce monsieur a commencé à me dire eh ben, pourquoi Dieu existe, mais...
Moi, je ne l'ai pas rencontré.
Moi, je ne l'ai pas rencontré déjà d'une part. Et en plus, c'est normal qu'il laisse faire que des gens soient atteints du cancer, décèdent dans des conditions. Et c'est vrai que la réponse, ce n'est pas facile, la réponse.
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de réponse.
Hein. Le mal existe. Hein.
Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis... À ce moment-là, et on apprend ça. On rentre toujours dans une chambre, il y a toujours quelqu'un, on n'est pas tout seul. On rentre, on ouvre la porte et on dit « Seigneur, passe devant ». Enfin, c'est une chose importante.
De toute façon, pour rentrer sur le territoire de l'autre, il faut toujours rentrer sur la pointe des pieds, non ?
Tout à fait. Et donc, j'ai dit « Qu'est-ce que je peux répondre ?» Et puis là, j'ai dit « Seigneur, aide-moi, je ne peux pas tout seul comme ça ». Et puis d'un seul coup, le monsieur, il ne s'est pas arrêté de... Mais il a enchaîné en me parlant, en me disant « Ben voilà ». J'ai été enfant de cœur dans le passé, je suis baptisé et j'ai perdu la foi. Mais après ce que j'ai souffert, là, je me retrouve dans cette chambre, j'ai eu envie de prier pour le remercier. Et il dit, je ne sais plus les paroles du pater ni de l'ave. Il me dit, si vous pouviez me fournir un petit livret...
Je retrouve les paroles de mon enfance. Retrouve.
Donc je suis allé lui chercher un petit livret avec toutes les prières. Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu. Et puis il me dit, j'aimerais bien avoir un chapelet aussi. Donc je lui ai ramené un chapelet, on a toujours des chapelets au bureau. Et récemment, donc il est sorti ce monsieur, et récemment son épouse a été hospitalisée. Donc j'y suis allé, et il était dans la chambre. Et donc on a parlé, et il me dit, regardez ce que j'ai dans ma poche. Il avait gardé son chapelet, et il était fier de me montrer le chapelet. Alors des fois on se dit, on arrive dans une chambre, on ne sait pas ce qui va se passer, et ben voilà, il se passe que Dieu est là, et...
Il se passe que Dieu est là. Eh bien, on va faire une petite pause musicale et puis nous allons reprendre notre dialogue. Bien, nous sommes toujours dans l'émission Témoin avec Étienne Perceroux qui est aumônier à l'hôpital de Dreux, un hôpital immense. Alors, j'imagine que vous évoquez l'accompagnement avec Paul Chêne et puis l'accompagnement avec une équipe diocésaine, mais j'imagine que la confrontation avec la faiblesse de l'homme, avec la mort, avec cette réalité ultime que quelquefois on masque, ça doit changer quelque chose en soi, non ? Ça vous transforme, ça fait quoi, si on peut s'exprimer ainsi?
Quand on sort d'une visite, et ça me manque, parce qu'il y a des journées où je suis obligé de faire du bureau, c'est vrai, enfin du bureau, un peu de paperasse, et certains soirs, ça me manque, parce que de visiter, de parler avec des personnes, sans évoquer la maladie ou choses comme ça, il y a quelque chose, c'est un partage entre le malade, et puis nous trois, parce que je dis que le Seigneur est toujours là, et il est là. Hein. Et on en sort grandi.
On en sort grandi.
Oui, on en sort grandi. Moi, quand j'ai fait dans une après-midi, c'est pas une question de faire du chiffre, hein, pas du tout, parce que des fois on est long, on passe beaucoup de temps
la personne malade,
et puis moins de temps avec l'autre, ou c'est des communions partagées quand la personne le demande. Tout ça, on sort grandi. Il y a un partage, il y a quelque chose qui se passe.
En fait, là, on perçoit que la vie, c'est quand même la relation être passeur quelque part.
Voilà.
Et dans la relation avec les autres, c'est-à-dire on sort de l'hôpital et puis on se trouve avec, entre guillemets, les bien portants, parce que j'imagine tous on doit être quelque part un peu malade. Comment ça se passe? Est-ce que cette conscience de la fragilité change votre regard sur le reste? Sur l'Église, sur le reste du monde? Parce que ici et là, quelquefois, de façon un peu institutionnelle, on dit « parlons de la fin de vie, parlons de l'euthanasie ». Et puis quand on se trouve face aux personnes, comment vous ressentez ces grandes questions?
En dehors de l'hôpital, là, c'est difficile à répondre. Je fais pas trop de distinction entre le monde où je suis justement. Quand on est en entreprise, il y a l'entreprise et il y a le reste. Mais quand je suis à l'extérieur...
De l'hôpital, on sort avec ses malades.
Oui, voilà, je continue à vivre avec, les malades.
Et avec Jésus-Christ, du coup.
Et du coup, avec Jésus-Christ.
Et alors, justement, comment on ressent ces questions de, que les médecins se posent, puisque finalement, il y a aussi les grands malades pour lesquels on se dit, que va-t-on faire ? Est-ce que l'aumônier a une parole ? Est-ce qu'il intervient ? Est-ce que, par exemple, des familles vous demandent de les aider dans leur discernement ? Comment les choses se
passent ? Jusque-là, je n'ai pas eu le cas. On est dans un milieu laïque, donc nous, aumôniers, on a nos limites pour intervenir. Donc on parle avec les médecins, mais en général, l'avancée de la maladie ou tout ça, le médecin, secret professionnel, ne parlera pas vraiment avec nous.
En étant aumônier de l'hôpital, vous êtes aussi aumônier des hospitaliers, si j'ose dire, de ces personnes qui soignent.
Oui.
Et là aussi, il y a peut-être une expérience à partager avec nos auditeurs.
Alors l'expérience que j'ai, donc je suis parti à Lourdes cette année avec les malades en tant qu'hospitalier. Et c'est vrai que là, on est vraiment, j'ose dire, dans le bain, à soigner les malades, ces personnes malades qui ne peuvent plus se déplacer, qui ont besoin de soins constants. Et on sent l'isolement dans ce cas-là, parce qu'ils ont besoin de nous et de notre chaleur, et puis aussi de Lourdes, de tout ce qui englobe Lourdes.
À Lourdes, on est le passeur entre la source et la personne.
Oui.
C'est aussi ce sentiment que l'on a lorsqu'on est à l'hôpital avec les malades, être le passeur entre la source qui fait vivre et,
oui.
Et l'homme.
Oui, alors évidemment, on n'est pas continuellement avec le malade comme à Lourdes,
oui.
Mais on le ressent.
Et comment vous ressentez ce dans les services où il y a des enfants, par exemple ? Peut-être vous n'y allez pas.
Pédiatrie, non. Pédiatrie, grand enfant, non. Nous n'y allons pas.
D'accord.
On peut être appelé, mais dans ce cas-là, il faut qu'on soit appelé.
Par la famille ?
Par la famille ou par les soignants.
D'accord. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs, pour finir notre émission, sur ce qui se vit dans ce monde différent de l'hôpital, qui quand même est le monde de nous tous, puisque tous nous vieillissons et nous mourons.
Alors l'hôpital, c'est une grande famille. C'est un lieu de rencontre où les personnes... sont différentes, de religion, de nationalité, de classe sociale aussi, et puis le handicap physique. Et quand on est dans ce monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit super intelligent, ou tout ce qu'on, on est tous d'égal à égal.
Là, c'est la vérité de l'être qui se révèle.
Et oui, et puis la présence d'église dans un hôpital, c'est pour accueillir, écouter, et puis... essayer de soulager son frère sans distinction. C'est-à-dire que nous, ou de religion, sans distinction de religion ou quoi que ce soit, nous, pour le culte musulman, nous avons un référent, pour les protestants un référent, et pour le culte israélite un référent aussi. Donc on n'est pas sectaire, je veux dire, on est aumônerie catholique, mais on...
Il y a la place aussi pour les autres.
Il y a la place pour les autres, oui.
Et en fait, à l'hôpital, donc, le mot de la fin, ce serait que vous êtes les hommes pour les autres.
Oui. Oui, tout à fait.
Être la personne pour les autres. Le passeur de Dieu. Merci, Étienne, d'être venu nous parler de ce monde un peu différent, qui fait peur, mais qui est le nôtre.
Mais on y est si bien. Merci.